J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un texte, d'un récit qui n'est pas un roman, qui s'intitule « Mon jardin sauvage », Ginat Bar en hébreu, écrit par le grand écrivain israélien Meir Shalev, que je vais peut-être d'abord commencer par vous présenter ou par vous représenter pour ceux d'entre vous qui le connaîtraient déjà. Il est né en 1948 au Moshav Nahalal, qui se trouve dans le Haemek Israël, dans la vallée de Jézréel. Après avoir entamé une carrière de journaliste, qu'il poursuit d'ailleurs jusqu'à ce jour avec sa chronique hebdomadaire dans le Yediot Acharonot, il publie son premier roman à l'âge de 40 ans. Le roman s'intitule « Roman Russi », un roman russe en traduction littérale. Mais ce titre devait sans doute paraître trop présomptueux pour l'éditeur français, qu'il a changé en « Que la terre se souvienne ». Avec ce livre, Shalev entame la saga mi-réelle, mi-fantastique de la génération de la troisième Aliya à laquelle appartiennent ses grands-parents maternels. Il ne s'agit pas du tout d'une œuvre autobiographique, mais bien sûr, l'auteur y introduit des récits familiaux tout en créant des personnages qui vont rapidement devenir des mythes de la littérature hébraïque contemporaine. Ephraïm, l'un des héros du roman, portant sur ses épaules le jeune veau qu'il a élevé et nommé Jean Valjean. C'est un récit inversé du Jean Valjean hugolien qui soulève la charrette sous laquelle le père Fauchelevent est à moitié écrasé, si vous vous souvenez d'un des passages les plus sublimes des Misérables. Chaque roman incarne un parcours initiatique des pionniers de la troisième Aliya qui s'installe dans ce Emek Israël, dans cette vallée de Jézréel. Le roman suivant, Esav, en français Le baiser d'Ésaü, fait le récit de deux frères jumeaux épris de la même femme. Leur mère est une Russe non-juive dont le père, fervent croyant, emmène sa famille vivre en Eretz Israël et se convertit au judaïsme. Le mythe puise ses racines dans le récit biblique que Shalev se plaît à subvertir, à transformer, à interpréter à sa guise. Ainsi, le roman « Pour l'amour de Judith », en hébreu « Keyamim Achadim », raconte la quête par le héros narrateur de son père, qu'il n'a pas connu, ou plutôt qu'il a peut-être trop connu. Sa mère Judith a été passionnément aimée par trois hommes et elle a toujours dit à son fils qu'ils étaient, tous les trois, son père. Elle les a laissés attendre comme Laban, Lavan, laisse attendre Jacob 7 années pour avoir Rachel. 7 années, dit la Bible, qui lui semblèrent comme quelques jours tant il l'aimait. Comme quelques jours, Keyamim Achadim, citation directe de la Genèse et donc de la Bible que Shalev connaît par cœur et dont il a donné le titre, et qu'il a donné plutôt pour titre à son roman. Comment est-ce que Shalev connaît la Bible par cœur ? Eh bien, tout simplement parce que son père, le poète et professeur Yitzhak Shalev, avait une façon bien particulière d'enseigner la Bible à ses enfants. Il les emmenait, Bible en main, sur les lieux, en Eretz Israël, en Israël, puisque Shalev est déjà né en 48, donc à la création de l'État. Eh bien, Bible en main, il les emmenait sur les lieux mêmes où s'étaient déroulés les événements. J'espère vous avoir déjà suffisamment mis l'eau à la bouche, mais il y a aussi Fontanella, la Fontanelle, roman dans lequel justement la fontanelle du narrateur ne s'est jamais refermée, ce qui lui confère une sensibilité particulière et particulièrement exacerbée, et le don de lire dans l'avenir. Et puis le pigeon voyageur, Yona Venaa, une histoire d'amour tout à fait extraordinaire, fantastique là, avec en toile de fond la guerre d'indépendance. La meilleure façon de grandir, Beveito Bamidbar, encore un titre emprunté à la Bible dans le livre des rois. Et il fut enterré dans sa maison, dans le désert, Beveito Bamidbar, où le narrateur est élevé par 5 femmes. 5 femmes qui sont sa grand-mère, sa mère, sa sœur et les 2 tantes, la tante rouge et la tante noire. Pourquoi cinq femmes et pourquoi aucun homme? Eh bien, tout simplement parce que tous les hommes de la famille meurent de mort accidentelle dans leurs jeunes années. Et Chalève réussit le tour de force à nous raconter à chaque fois les accidents qui provoquent ces morts de façon humoristique. Le livre est extraordinaire, hein, avec ces cinq femmes, ces dix mains qui vont élever le jeune Raphaël, qui, un beau jour, va quitter Jérusalem pour aller s'installer au milieu du désert, enfin délivré de ces cinq femmes. Le dernier roman paru en français, en attendant le suivant qui devrait sortir, je pense, d'ici un an à peu près. Donc, leur dernier roman paru en français s'intitule « Un fusil, une vache, un arbre et une femme ». En hébreu, « Shtaim Dubim », c'est-à-dire « deux ours féminines » tirées encore une fois du Livre des Rois, deuxième Livre des Rois, chapitre 2, verset 24, qui relate une terrible histoire de vengeance. Mais ce n'est pas tout. Il y a les livres plus directement liés à la famille de Chalève. Ainsi, ma grand-mère russe et son aspirateur américain. En hébreu, « Vehadavar haya kacha ». Littéralement, voilà comment les choses se sont passées. Une véritable ode à sa grand-mère maternelle, Tonia. Tonia, justement, arrivée de Russie au début des années 20 avec cette fameuse troisième Aliya. Un autre ouvrage, carrément subversif, s'intitule « Ma Bible est une autre Bible », en hébreu « Tanakh Acher », un autre Tanakh, livre dans lequel Chalève reprend des épisodes bibliques célèbres, la rencontre, évidemment, entre Yaakov et Rachel, entre Jacob et Rachel, celle entre Shlomo et Malkat Shva, Salomon et la reine de Saba, et il en donne sa propre exégèse, souvent très humoristique, mais également empreinte d'un véritable amour pour les personnages qui l'humanisent et dont il fait des figures de la modernité. Je ne parle évidemment que des œuvres traduites en français jusqu'à ce jour, car Chalève a également à son actif une foule d'albums jeunesse, tous plus drôles et plus justes les uns que les autres. Ainsi, les Fossettes de Michal, Fossettes de Michal ou la petite Michal, ayant vu ayant rencontré lors d'une soirée où ses parents avaient invité des amis avec leur petite fille, que celle-ci possédait les plus délicieuses fossettes qui se puissent rêver, décide un beau jour d'acquérir elle aussi des fossettes. Et le meilleur moyen qu'elle trouve pour essayer d'avoir les fossettes en question, c'est de se mordre les joues de l'intérieur afin que le petit creux puisse s'y déposer à force, donc de se mordre les joues. Je vous laisse découvrir ce délicieux album, si toutefois vous avez accès à l'hébreu. En tout cas, ce sont des albums qui sont régulièrement montés en scène, montés sur scène, dans les spectacles pour enfants. Mais le livre dont je parle aujourd'hui, « Mon jardin sauvage », en fait, si j'ai choisi d'en parler, c'est que l'écologie, le climat sont très en vogue, et Israël ne fait pas exception. La preuve, c'est que Meir Chalève a décidé un beau matin de quitter Jérusalem, la ville où il habitait depuis toujours, ou presque, pour aller s'installer en pleine nature dans sa vallée de Jézréel, dans Emek Israël, à l'extérieur d'un petit village où il a trouvé une vieille bicoque, une masure, qu'il a complètement retapé, remise en forme, rénovée, et surtout où il a installé son jardin sauvage. Il s'agit donc avec cet ouvrage d'un voyage écologique au cœur de ce jardin, là où il a, en fait, dans un lieu où il a engrangé tant et tant de souvenirs d'enfance. Il évoque les couleurs, les parfums, les sons qui se répondent, comme dans le poème « Correspondance » de Baudelaire, au rythme des saisons. Il décrit les paysages et converse également avec les vrais propriétaires du lieu, les oiseaux, les hérissons et autres amis. Chalève est un grand amoureux de la nature et cela se voit dès son premier roman. Ici, il consacre un livre entier à la gloire de cette nature, de ce jardin sauvage, lui qui est un jardinier somme toute néophyte, qui apprend sur le tas et qui est bien conscient que la nature peut nous apprendre sur nous-mêmes beaucoup de choses que nous ignorons. Il s'agit donc à nouveau d'un voyage initiatique, à l'instar de ceux que les personnages de ces romans vivent, chacun d'une façon différente, mais cette fois, c'est son voyage à lui, accompagné d'une réflexion sur la place de l'homme au sein de la nature. Et pour vous faire entendre combien Chalev est toujours relié par les fils de la tradition et ceux de l'amour de la terre, voici un passage dans lequel il raconte comment lui a été transmis l'amour de la nature, et en particulier celui des arbres, puisque, nous dit la Torah, en Deutéronome chapitre 20, verset 19, « Ha'adam hu etz ha'sadeh, l'homme est un arbre des champs. » Voici ce passage. Mon aïeul était un expert qui avait planté un vignoble, une orangerie et un verger dans sa propriété. J'aimais le regarder tailler et éclaircir les tiges et les rameaux de la vigne. Les mouvements de ses mains m'enchantaient. Je n'étais qu'un enfant et je ne savais comment l'exprimer avec des mots, mais je sentais que les gestes d'un maître artisan étaient les plus beaux que le corps humain puisse receler. Aujourd'hui encore, les charpentiers, les serruriers, les maréchaux ferrants, les tailleurs de pierre, les boulangers me fascinent davantage que les athlètes ou les danseurs. Mon grand-père avait grandi dans une famille chassidique en Ukraine et, à l'âge de raison, il avait préféré le travail de la terre au culte divin, sans oublier pour autant son Talmud. Les premiers arbres qu'il choisit pour son jardin étaient des oliviers, des grenadiers et des figuiers, en plus du vignoble. Ce n'était pas un hasard, car tels sont les arbres fruitiers recensés dans la Torah parmi les 7 espèces dont fut bénie la terre d'Israël. Près de la maison, il planta des orangers et des pamplemoussiers, 2 autres grenadiers et un arbre incroyable qui donnait des oranges, des citrons, des clémentines et je ne sais quoi d'autre, peut-être des pomelos, voire, à en croire le récit familial, des avocats ou des tomates. Quoi qu'il en soit, cet arbre m'émerveillait et m'enthousiasmait, surtout depuis que j'avais demandé à ma mère comment mon père s'était débrouillé pour l'obtenir. « C'est un magicien », avait-elle répondu. Des années plus tard, je compris qu'il s'agissait d'une simple greffe sur une bouture de bigaradier, mais les paroles de ma mère restèrent gravées dans mon esprit. Elle cultivait un jardinet à Jérusalem. Nous habitions alors à Kiryat Moshe. J'avais environ 4 ans quand nous nous y sommes installés. La construction des logements sociaux venait de s'achever. Les arbres et les fleurs ne poussaient pas encore, et l'endroit ressemblait à un chantier en construction. Il y avait, devant la façade de notre immeuble, un lopin de terre divisé en petites parcelles destinées au futur jardin et à l'arrière, un terrain vague, rocailleux. Ma mère suivit l'exemple de ses ancêtres. Elle commença par assécher les marais et faire fleurir le désert. Elle garnit la première plate-bande de dahlia, de chrysanthème, d'un frésia, de jolies petites plantes appelées cyprès d'été, très décoratives et répandues à l'époque, elles ont totalement disparu depuis, et d'une autre espèce, connue sous le nom de misère, qui envahit rapidement la palissade le long du trottoir. Le système d'irrigation, goutte à goutte, n'existant pas encore, ma mère creusait des cuvettes autour des arbres, aménageait des rigoles et arrosait son jardin aux tuyaux et aux goulots. Cette technique est à présent obsolète, mais à l'époque, il n'était pas rare de voir les passants demander à boire au tuyau. Ils portaient l'embout à la bouche ou recueillaient l'eau dans le creux de la main. Les premiers buvaient comme des citadins, raillaient ma mère avec la condescendance d'une paysanne, tandis que les autres savaient boire. Tous les enfants du quartier avaient dans la poche, en plus de celle de leur maison, une clé carrée pour ouvrir et refermer les robinets. C'était notre manière de nous désaltérer en rentrant de l'école à l'heure du déjeuner. Parmi les propriétaires des jardins, certains nous accueillaient volontiers, quand d'autres nous chassaient à grand renfort de menaces et de cris.
Began muksam yoshev ish mefukach, chetzio mu'ar, chetzio shachach, imo kar'alo mechalon shel shina. אך הוא לא ישן, ולכן לא פנה. לכן לא פנה. ויצא לבדו אל מחוץ לגדר, חציו הוא, חציו אחר, ואהב סיפור אהבה מפורסם, ומאז לא שב אל הגן המוקסם. אל הגן המוקסם. וחי בטוב, וחי בכאב, ואם לא מת, הוא עדיין אוהב, עדיין אוהב. בגן מוקסם יושב איש מפוקח, חציו מואר, חציו שכח, ואהב סיפור אהבה מפורסם, ומאז לא שב אל הגן המוקסם. אל הגן המוקסם.
Le poème chanté que nous venons d'entendre est de Yehuda Amichai sur une musique de Yehudit Ravitz et interprétée par cette dernière. Il porte le titre de « Le jardin enchanté ». Dans le jardin enchanté est assis un homme sobre. Il est à moitié éclairé, à moitié dans l'obscurité. Voilà donc une illustration de ce jardin magique, de ce jardin extraordinaire, pour reprendre Charles Trenet. Voilà également un autre passage où Chalev entrelace très subtilement le texte biblique avec le paysage somptueux qu'il a sous les yeux. Une technique très usitée, encore une fois, dans la plupart de ses œuvres, et qui fait de lui un des auteurs les plus amoureux qui soit, à la fois du paysage Eretz israélien et du texte biblique. Il s'agit du chapitre intitulé « La Mouchraka ». Il existe, écrit Chalev, deux types d'horizons. L'insaisissable, le chimérique, à l'orée de la plaine, et le mien, avec une ligne de vision claire et nette qui se dilue ou s'estompe uniquement les jours de brouillard ou de brume. Cet horizon, c'est le Carmel, qui se profile à une douzaine de kilomètres à l'ouest. Un certain nombre de villages et de routes nous séparent, mais les collines boisées voisines les dissimulent à ma vue, créant une agréable illusion de vide, d'espace et de solitude. Les seuls signes de vie sont la périphérie nord-est de Kiryat Tivon et les maisons d'Ousfeya, surplombant le Carmel à l'est. Quand le mont est éclairé par la clarté du matin, je peux distinguer ses contreforts ravinés. L'après-midi, les rayons du soleil me frappent de plein fouet et il devient une masse informe d'un gris bleuté. Le soir, lorsque le soleil décline derrière le massif, il s'assombrit, s'enténèbre et s'évanouit. La Mukhraka est l'un des sommets de la chaîne du Carmel. Ce n'est pas le point culminant, même si j'en ai l'impression depuis ma maison. Le lieu abrite un monastère carmélite, Dir el-Mukhraka, d'où il tire son nom. Il porte également l'appellation hébraïque de Keren Carmel, validée par l'État d'Israël, mais celle-ci n'est pas usitée. Pour quelle raison ? Parce que la survie des mots est semblable à la lutte pour la vie des animaux et des végétaux. Seuls résistent les plus forts et les mieux adaptés, tandis que les autres périssent. Malgré le respect que les Israéliens éprouvent pour leur langue et leur état, ils ont apparemment du mal à dire « on va au Keren Carmel », parce que cela évoque davantage, peut-être, une jeune avocate dynamique qu'un toponyme. À moins que « on va à la Mukhraka » paraisse plus naturel et sonne plus joliment à l'oreille, de sorte que le cœur et la bouche n'éprouvent pas le besoin de changer de nom. Tout le monde ne sait peut-être pas qu'il y a une autre raison. Il se trouve que l'arabe Mukhraka préserve davantage la tradition juive liée à ce sommet que le nom hébreu sioniste Keren Carmel. Mukhraka signifie en effet « lieu brûlé », d'après le récit biblique du prophète Élie qui, dit-on, défia les prophètes de Baal et triompha là où ils avaient échoué, faire descendre le feu du ciel pour consumer le bois et l'offrande sur l'autel spécialement dédié. Le feu prouva que l'Éternel, et non Baal, était le seul vrai Dieu. Premier livre des Rois, chapitre 18, versets 1 à 46. Mais l'État juif, qui s'efforce d'éradiquer les toponymes arabes de la carte et de la conscience, donna à ce lieu le nom hébraïque de Keren Carmel, effaçant ainsi l'héritage juif préservé précisément par l'appellation arabe. Ah, nous vivons dans une région compliquée et irrationnelle, c'est moi qui vous le dis. Faire tomber le feu céleste afin de brûler le bois et le sacrifice n'était que la première étape de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. La seconde était bien plus cruciale, provoquer un déluge au bout de 3 années de sécheresse. Et après le feu, je cite le texte biblique, un petit nuage gros comme la paume de la main, fermez les guillemets, se leva et il tomba une pluie abondante. L'œuvre du Dieu d'Israël et de son prophète et non du Baal, la divinité qui contrôle la pluie dans le panthéon cananéen. La compétition entre Élie et les prophètes de Baal, qui se rendirent en masse sur le mont Carmel ce jour-là, revêtait une grande importance. Tout comme l'on va consulter un médecin spécialiste du genou, ou un ingénieur expert en plomberie, ou un avocat pénaliste, le peuple d'Israël invoqua Baal en temps de grande sécheresse, puisqu'il était le maître de la pluie. Ce raisonnement n'est pas dénué de logique. Dans la mythologie païenne, chaque divinité était responsable des forces de la nature, telles le soleil, la pluie, le vent, le sommeil, la guerre ou la médecine, et non, comme chez les juifs, un dieu unique et omnipotent. Je tiens à mentionner en passant que pendant son errance dans le désert, Israël expérimenta pour la première fois la puissance de l'Éternel en tant que pourvoyeur d'eau qu'il fit jaillir d'un rocher plutôt que du ciel. À mon humble avis, cet événement signalait aux croyants que, avec tout le respect dû à Dieu en particulier et au monothéisme en général, l'Éternel ne maîtrisait pas vraiment les précipitations, contrairement aux divinités de leurs voisins. Sans surprise, ils se sont tournés vers Baal, lequel en l'occurrence méritait bien son nom, Baal Mektoa, un professionnel, qui n'avait pas la prétention de résoudre tous les problèmes de l'humanité à l'échelle planétaire, mais se consacrait aux préoccupations immédiates de ses adorateurs dans cette partie du monde. En dépit de ce que je viens d'exposer, Dieu et son prophète Élie ont remporté une grande victoire au sommet de la Mukhraka. Le feu, puis la pluie, s'abattirent du haut des cieux, et Élie saisit l'occasion pour massacrer 450 prophètes de Baal dans la vallée du Kishon. Nous aurions pu nous enorgueillir de cette histoire, la raconter à nos enfants de génération en génération. Pourtant, l'épilogue est différent. 3000 ans plus tard, je ris sous cape en observant la Mukhraka depuis mon jardin, car malgré la victoire de l'Éternel, les plantes que je cultive relèvent du dry farming, Baal farming en hébreu, méthode qui permet la culture non irriguée en utilisant uniquement les eaux de pluie. En d'autres termes, l'hébreu a désigné Baal comme le grand vainqueur, puisque c'est lui qui fait tomber la pluie, et non le dieu d'Israël. Curieusement, c'est donc la langue hébraïque qui a pérennisé le culte de Baal, là où l'arabe a perpétué la victoire du dieu d'Israël, alors que par le choix du nom, Keren Carmel, qu'il a attribué à la Mouhraka, Israël a choisi d'oblitérer jusqu'au souvenir de cet événement. Voilà tout l'humour de Meir Shalev. Je vous recommande donc Mon jardin sauvage aux éditions Gallimard dans la très jolie et très inspirée traduction de Sylvie Cohen.